Bonjour, ici Pierre-Étienne.
Et Jonathan.
Et bienvenue à la table d'hôte. Cette semaine, on reçoit Vianney Godbout, l'un des propriétaires du restaurant Chasse-Galerie. Avec lui, on discute télé-réalité culinaire, vie de restaurateur, mais surtout de l'événement gastronomique de l'heure à Montréal, Chef Battle. Bienvenue à la table d'hôte, le podcast culinaire dédié au monde de la gastronomie et de l'alimentation au Québec. C'est Pierre-Étienne qui est avec vous en solo aujourd'hui. Et oui, Jonathan aurait adoré être avec nous, mais malheureusement, le travail de traiteur comporte son lot de défis et de contrats de dernière minute. Donc, on le salue à distance et il reviendra parmi nous là, très, très bientôt. Donc, à l'orée de la saison printanière, l'émission Les Chefs a débuté sa 9e saison le 1er avril dernier. Une autre émission, Un souper presque parfait, en est rendue à sa 10e saison. Décidément, là, l'intérêt pour les émissions de télé-réalité mettant en lumière la gastronomie et ses artisans ne se tarit clairement pas. D'ailleurs, on a la chance aujourd'hui de recevoir une personne qui, forte de ses 4 participations à Un souper presque parfait, est devenue un peu dire une icône de ce genre télévisuel-là. On reçoit Vianney Godbout, le propriétaire du restaurant Chasse-Galerie à Montréal, où on enregistre d'ailleurs l'émission aujourd'hui avec un excellent verre de vin blanc. Alors bonjour Vianney.
Salut Pierre-Étienne, comment ça va?
Bien, ça va très bien. Je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui.
Très content d'être ici.
Ça fait déjà un bout qu'on est en discussion, mais que finalement ça ne donne jamais qu'on peut se rencontrer. Mais bon, je tenais vraiment à remettre ça, surtout qu'on en parlera en deuxième partie. Là. Il y a un super beau concours qui a lieu et place ici même dans ton restaurant,
oui.
Chef Battle. Fait que ça, c'est très intéressant. On reviendra là-dessus. Mais en premier lieu, je voulais, dans le fond, pour remettre un peu les auditeurs en contexte, tu as participé, toi, à Un souper presque parfait en 2011 pour la première fois. Alors même que ce type d'émission-là, c'était ses premiers balbutiements au Québec. Là. C'était tout nouveau. Il y avait les chaînes de bouffe déjà, mais concrètement, les compétitions culinaires entre justement des personnes amateurs, entre parenthèses, là, mm-hmm. Ça, c'était tout nouveau ici au Québec. Clairement, l'expérience a dû te plaire parce que malgré, avec tout ça, tu as quand même participé 4 fois.
C'est encore drôle, mais ils sont très convaincants en fait. mais en gros, la première participation, ça s'est passé d'une façon un peu cocasse. Moi, j'ai toujours été, excusez le terme très francophone, mais une attention whore. Et puis, Deuxio, j'aimais beaucoup recevoir et cuisiner tout ça. Puis, Chez moi, c'est un peu le lieu de rassemblement des soirées entre amis pour les parties de hockey et tout ça. Puis, on avait pris un malin plaisir à écouter Un souper presque parfait, la plupart du temps pour rire des candidats plus que d'autres choses.
OK, donc toi, tu l'avais déjà regardé, cette émission-là?
Oui, je l'avais regardé. Je pense que ma première apparition, si je me trompe pas, on est à la 3e saison quand même. Mais je dirais qu'au début, je pense que le talent culinaire amateur s'est un peu réuni dans les premières saisons, puis c'est devenu un peu plus un freak show par la suite, là, n'en déplaise à quiconque. Puis en fait, moi, je me suis fait inscrire, sans qu'on me le dise, par mes amis en question, et j'ai reçu un appel à l'époque de Anissé. Mais je pense que mon casting, de la manière qu'eux avaient écrit les informations, j'étais un peu casté pour être l'idiot du village pendant la semaine.
Ah ouais.
Puis, j'aimais cuisiner, puis j'avais des amis cuisiniers, et donc je suis arrivé là très préparé, très en place, puis ça a bien été. Puis par la suite, on te rappelle, on t'invite, puis...
Ah ben, clairement, t'es impressionné, parce que c'est toi qui as été la plus haute barre dès le début. Là. Après ça, tout le monde, c'était la marque à battre, le 36 sur 40 que t'as eu, là.
C'est sûr, sauf que les notes dépendent beaucoup des gens qu'on a autour de la table. Tu sais, dans mes 2 dernières fois, j'ai eu la vieille dame déplaisante, Lise, que je porte absolument pas dans mon cœur. C'est clairement pas stagé.
Le pire, c'est que par hasard, on l'a rencontré, ma copine et moi, à l'épicerie, chez Loblaws, qui faisait des dégustations.
Elle devait être détestable.
Mais effectivement,
c'est des gens comme Lise qui nous enlèvent le goût d'être séparatistes, en fait. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais bref, on parlait de la note. Donc, je pense que personne ne pourrait jamais avoir une grande note s'il y a la malchance d'avoir un candidat aussi malhonnête et malfaisant qu'une Madame Lise ou ben il y en a plein d'autres. Il y en a eu au fil des saisons. Moi, la première fois, c'est sûr que j'ai vraiment été choyé par ma tablée. C'était des gens qui étaient assez honnêtes dans leurs notes, puis assez généreux même, je dirais.
Mais ils appréciaient, tu sais, je veux dire, c'était quand même impressionnant là, ce que tu avais fait. Là. Si je me souviens bien, tu avais même utilisé de l'azote liquide là, pour faire un plat.
Oui, mais je suis d'accord. Je comprends, mais l'azote liquide, je veux dire, n'importe qui peut aller en chercher et puis presser des pommes Granny Smith puis les utiliser. Là. Donc, je veux dire, c'est rien de nouveau, mais c'était cool pour l'émission.
Mais dans un contexte où justement, c'est tous des amateurs qui sont là puis probablement qui sont tous à des niveaux différents, évidemment, du tien. Là. Surtout que si tu dis en plus que tu as été inscrit par des amis... Tu avais été casté comme quelqu'un que... Tu as dit la surprise un peu de tout le monde, même du crew, en fait.
Oui, bien, moi, j'ai vraiment... Je pense que j'avais cuisiné le mardi, si je me trompe pas. Puis, suite au lundi, tu sais, j'y allais vraiment pour me faire rire moi-même puis dans l'idée de faire rire mes amis puis tout ça. Puis, comme je dis, j'ai vraiment l'impression que personne ne s'attendait à ce qu'au niveau de l'assiette, ça soit au niveau. Donc, tant mieux. Ça a bien été. J'en suis très content, là.
Ah, clairement, mais écoute, ben, c'est justement, si on dit à ce niveau-là que t'as été t'es catégorisé, vu que t'es revenu 4 fois, fait, oui, il y a eu cette première fois-là, mais t'as aussi l'ultime choix du public en 2017, t'as aussi, bon, évidemment, avant ça, la semaine choix du public, et à la fin, justement, les 5 concurrents avec les meilleures notes de tous les temps, là, tu sais. Fait que, veux pas, tu fais partie du All-Star, là, encore à ce jour, là.
Ben, merci. Je vais rougir.
Est-ce qu'ils t'ont recontacté depuis pour refaire un autre épisode ou la dernière a été pas mal celle qui a sonné?
Non, je pense que la dernière, c'est pas mal la dernière, puis je dirais que c'est un peu... Là, je l'ai vécu avec un niveau de pression qui était un peu différent, étant donné que maintenant, j'ai un restaurant, tout ça. Je pense que ça peut être beaucoup plus dangereux pour l'image d'entreprise. T'sais, j'ai des associés, donc je sentais que j'avais beaucoup plus de pression. Je le faisais avec beaucoup moins de plaisir que les autres fois. Donc, je pense que je tire ma révérence. Je suis très ouvert aux médias, mais ça sera pas par le biais d'un souper presque parfait. Puis je pense que j'ai pris un niveau de maturité au niveau de tout le monde, de la bouffe, du vin et tout ça. Donc, je sens pas que j'ai pas particulièrement envie de retourner dans ce type de show-là. Puis tu sais, quand on décide de se prêter au jeu, on peut pas mettre des conditions, je veux pas être avec telle ou telle personne. Mais j'ai plus nécessairement envie de passer une semaine à souper avec des gens qui me rejoignent pas du tout.
Mais un jour, est-ce que ça pourrait t'intéresser de peut-être reparticiper à une émission, mais peut-être à titre de juge, ou est-ce que le monde de la télévision en soi, c'est terminé pour toi?
Non, moi c'est un rêve, là. Mais dans une autre optique, là, je veux dire, tout ce qui est télé-réalité, certes, c'est pas l'aspect de la télé-réalité qui me dérange, c'est le manque de crédibilité du concept d'un souper presque parfait, qui est un concept qui est génial. Là, je parle pas vraiment de c'est juste qu'on... Bon, à 33 ans, j'ai plus envie de souper 5 soirs en ligne avec des gens pour lesquels j'ai pas... J'ai aucun atome crochu et pas particulièrement d'estime.
C'est ça, vous partagez pas de ça.
C'est méchant, ça.
Non, c'est correct. Écoute, c'est pas une question d'estime. Je pense aussi, c'est d'un côté, on a des opinions divergentes, mais c'est un peu ça aussi, un souper presque parfait. À la base, c'est d'amener 5 personnes qui ont des mentalités ou des façons de faire diamétralement opposées pour créer un show. Parce que si on prend des gens qui sont tous pareils, un show va être plate.
Je suis d'accord avec toi. Puis pour le téléspectateur, c'est ça qui rend le show intéressant. Mais quand on se force à livrer quelque chose qui est travaillé, qui est agréable, qu'on se force à faire des accords mets vins qui sont le fun, qu'on met de la recherche dans ce qu'on va servir dans le verre, dans l'assiette, puis qu'on fait face à des gens qui n'ont aucune appréciation pour ça et qui ne le comprennent pas, puis qu'en retour, nous, je veux dire, on n'a pas nécessairement de plaisir à boire ou à manger ce qu'on nous sert chez eux. C'est drôle une semaine, 2 semaines, mais je veux dire, là, mon quota, il a clairement été atteint, puis je peux avoir l'air amer, pas du tout. Là, je veux dire, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais la dernière fois, j'en ai pas particulièrement eu.
Mais dans le fond, je veux dire, toi, à la base même, là, ce qu'on comprend, bon, c'est des amis qui t'ont inscrit. T'étais pas là pour le 2000$ qui était en jeu à ce moment-là.
Bien, mon premier souper m'a coûté plus que 2000$. Donc, si j'étais non, je veux pas avoir l'air de dire n'importe quoi. Là, je veux dire, j'ai pas gardé mes factures de 2005.
Tu mettons que tu es arrivé kiff-kiff avec le gain.
Ben, c'était pas une question de gagner l'argent ou quoi que ce soit. Moi, je voulais m'amuser. Fait que, je veux dire, la seconde où je le fais plus avec... la seconde où ça m'amuse plus, puis tout ça, je me souviens quand on était dans le petit Econoline, il pleuvait, le premier souper, la madame s'appelait Caroline, super gentille. J'étais nerveux, je me faisais miker, j'avais un thrill, j'étais... Ça, malheureusement, c'est des choses qui se perdent. Mm-hmm. Puis quand on devient un peu blasé, puis que c'est monotone, c'est vraiment dépressant, mon speech, mais je le pense vraiment, malheureusement, c'est ça. Sauf que, oui, être juge dans quoi que ce soit, après, je veux dire, moi, je suis pas un cuisinier professionnel, tout ça. Puis c'est vraiment quelque chose auquel je cherche à m'éloigner. J'ai une super équipe en cuisine. Je pense que au niveau du resto, j'ai été capable de réunir des gens de talent, puis créer une équipe qui est contente de travailler ensemble puis de performer. Mais je serai pas le faux chef. Je serai pas une Miss Sushi à la maison qui prétend être chef. Ça sera jamais moi.
Ben d'ailleurs, ici, dans le fond, le restaurant, ici, dans le fond, t'es copropriétaire, mais techniquement, c'est pas toi qui cuisines, si je comprends bien ici, là.
Non, absolument pas. Notre chef, c'est Alex Saint-Amand. On a beaucoup de plaisir ensemble. On passe beaucoup de temps ensemble. On voyage, on fait des restos. Moi, je suis quand même choyé, là. Je veux dire, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, de faire beaucoup d'étoilés, tout ça. Puis, tu sais, je prends des notes constamment quand je suis au restaurant, puis j'analyse tout ce que je mange. Tu sais, toujours avec du plaisir, là. C'est pas... Je suis pas lourd comme convive à une table, là. Ben, mentalement, physiquement un peu, là, mais bon. Ça, c'est un autre débat, mais...
On invite Lise, d'ailleurs, la semaine prochaine pour en parler.
Oui, je pense qu'elle est morte.
Ah! Ah, ben Dieu est peut-être son âme.
Oui, ou Dieu a eu du jugement pour une fois. Ben, c'est ça. Donc, pour finir, quand on crée un menu ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'on a une discussion. Je veux dire, je serais à l'aise de dire que quelque chose ne fonctionne pas ou quoi que ce soit. Il y a un droit de regard qui est là. Mais quand on fait confiance à l'équipe avec laquelle on travaille, en même temps, on sait ce qui risque de nous être livré. Puis on peut amener des idées. Puis souvent, les idées, on les a ensemble parce qu'on mange au même endroit, puis tout ça. Mm-hmm. Puis c'est sûr qu'on se laisse inspirer par nos voyages, puis tout ça. De toute façon, en cuisine, je pense que la majorité des choses ont été faites. Fait qu'il faut arrêter de penser qu'on est l'inventeur de quoi que ce soit ou...
Ben, c'est souvent de réinventer quelque chose plus que de l'inventer rendu où on est, là.
Oui, puis le terme « réinventer » est un peu biaisé, là. Tout le monde réinvente tout, mais ça a été réinventé de la même façon 50 fois. Donc, je pense que, selon moi, le trend actuel qui va être intéressant, c'est d'arrêter de réinventer puis s'en tenir au classique, mais pour une fois, les bien les faire, tu sais. Mm-hmm. Sans prendre de raccourcis avec le temps que ça prend puis tout ça. Moi, je réalise que le gastro, j'ai de moins en moins de plaisir à le manger. C'est même si c'est triste parce que c'est ce qu'on fait ici, mais pour quelqu'un qui baigne dedans, ben, ça fait quand même 3 ans que j'ai carrément la face dedans non-stop. Maintenant, j'ai du plaisir avec des trucs gourmands, simples, qui me rappellent la maison. C'est ce que je recherche quand je vais dans un resto.
Bien, souvent même que, tu sais, c'est pas fou ce que tu dis. Personnellement, j'ai plus envie dernièrement de retourner à la base, c'est-à-dire une bonne pâte avec juste la sauce tomate, un petit peu de fromage, basilic, merci, bonsoir, puis on dirait que c'est comme délicieux. On goûte chacun des éléments individuellement plutôt qu'un ensemble qu'on est comme, je suis pas capable de déterminer ce qu'il y a là-dedans tellement que c'est mélangé.
Oui, non, ben c'est exactement ça. L'exemple de la pizza, je suis un peu biaisé parce que moi, je suis encore un fan... de la pizza New York style.
Ah, c'est toujours bon, là. Ça, mais... on
n'en
a rien à ça.
C'était vraiment... T'as mis le doigt sur l'exemple qui est mon contre-exemple, qui confirme la règle, finalement. Mais oui, pâte simple, une viande simple avec une belle réduction, un beau jus de viande. J'ai pas besoin de 800 gels. C'est 68 siphons, plein d'émulsions. Je suis blasé de ces choses-là, mais je peux comprendre que les gens qui vont au restaurant occasionnellement, aux 6 mois, c'est une expérience pour eux, puis ils l'apprécient au niveau du visuel, puis ça les fait sortir de leur zone de confort, tout ça. Je pense qu'on peut peut-être avoir un point de vue qui est un peu différent de d'autres gens, parce qu'en ayant le visage collé à la gastronomie puis aux trucs complexes non-stop, nous, on recherche autre chose. Mais je peux comprendre que quelqu'un qui vient se payer un set service chez nous, il s'attend à avoir un show au niveau du visuel, mm-hmm. puis voir des choses qu'il n'a jamais vues, puis tout ça. Fait qu'on s'assure de continuer dans cette lignée-là. Mais si ben, je suis en train d'ouvrir autre chose, puis là, je m'en vais complètement de l'autre côté, dans la, tu sais, le confort, puis le la bouffe chaleureuse et simple.
Pour revenir un peu, dans le fond, dans le giron de télé-réalité, le fait que tu as été invité aussi souvent à un Spiros C'est Parfait, puis rappelé parce que tu étais populaire, les gens t'aimaient, les gens aimaient te voir. À ton point de vue, qu'est-ce qui fait que les gens voulaient te revoir? Qu'est-ce qui a fait que, pour eux, tu étais une des personnalités qui avait envie de revoir à la télévision?
Franchement, je crois que... Ben, Je sais que je suis quelqu'un qui est souvent dans le deuxième degré, excessivement sarcastique et tout, donc ça a pu plaire à des gens. Il y a aussi la catégorie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient du plaisir à ne pas m'aimer. Mais tu sais, on aime détester les gens, puis on veut ramener les gens qui sont détestables. Moi, personnellement, je considère pas que j'ai été un convive détestable ou quoi que ce soit, là. Puis en fait... J'ai encore des bonnes relations avec les gens avec qui j'ai pas eu des mauvaises relations on-cam, puis que c'était comme clair. L'idée de livrer de la bouffe qui est visuellement intéressante, ouvrir des belles bouteilles, être divertissant, faire des blagues, le fameux gag de la pizza, les gens, j'en entends encore parler à l'occasion, là, de moins en moins. C'est sûr que le fait d'avoir pris 80 livres depuis l'émission, les gens me reconnaissent moins, mais... bref, ça doit être pour ça. C'est super flatteur, là. T'sais, moi, ça serait complètement mentir de dire que j'ai pas pris plaisir. Mais écoute, pour moi, c'est quand même derrière, là. Je veux dire, maintenant que je suis à fond dans la bouffe, dans la restauration, dans l'hospitalité, je trouve ça flatteur, super gentil, mais je prends moins de plaisir à ce qu'on me ramène toujours. Le souper presque parfait, puis qu'on dise « Ah, c'est ça qui t'a propulsé », je suis comme « Non, c'était mon rêve. Quand j'avais 7 ans, je voulais pas être policier ou pompier. Moi, je disais que je voulais avoir mon hôtel. » Fait que, tu sais, ça part de loin, puis...
Mais tu considères pas que ça t'a donné quand même un petit coup de pouce pour pouvoir t'aider à ouvrir ton restaurant?
Ou... Ben moi, je pense vraiment pas, puis je l'ai même vécu quand mon restaurant était ouvert, puis j'ai fait l'ultime choix du public. Dans le créneau qu'on a sur le plateau, puis tout ça, tu sais, d'un créneau un peu plus high-end, si on veut, ça m'a pas amené de clients. Il y a eu bien des puis c'est plate ce que je veux dire, il y a eu bien des weirdos qui ont appelé, puis hey, c'était bien cool ce que t'as fait, viens-nous, on va venir à un moment donné. Mais je pense que si j'avais fait quelque chose de plus casual, puis je pense que c'est une émission qui est peut-être plus écoutée en banlieue puis en région. Je dis ça sans aucune preuve, j'en ai aucune idée en tant que tel. Mais tu sais, le fait d'être pas mal en plein milieu de Montréal, puis de faire un peu plus de la gastronomie, de la dégustation, puis tout ça, je pense pas que ça m'a amené des revenus en tant que tel. Puis peut-être un peu de visibilité, mais pas nécessairement la visibilité à l'endroit des clients qui vont venir. M'aider à payer mon loyer, mes frais au gouvernement et mon électricité et mon gaz. C'est vraiment ça.
Peut-être pour terminer le blog, j'aimerais ça en apprendre un peu plus sur, dans le fond, ta passion pour la gastronomie en soi. Elle est née comment? T'sais, tu dis que bien avant, même un souper presque parfait, tu faisais déjà un peu de la bouffe haut de gamme, si on veut, avec des amis. Et je pense que vous challengiez aussi à essayer de faire des bons repas. C'est né de où, ça, cette passion-là, pour toi?
Ça part de très loin. Moi, j'allais à la bibliothèque Gabriel Roy à Fabreville avec mes parents. Puis, dans la section des livres pour enfants, je prenais tous les livres de recettes pour enfants, puis j'adorais... ma mère était excessivement aidante, puis tout ça, puis elle allait m'acheter les ingrédients, puis... J'avais un plaisir fou à cuisiner le souper pour mes pauvres parents qui étaient obligés de manger ces catastrophes culinaires-là. Là,
Est-ce que ta mère avait le côté culinaire développé? C'est-tu elle qui t'a donné un peu ses trucs au départ?
Je suis obligé de dire que oui. En fait, sa mère... Ma mère est française, elle vient du sud-ouest de la France. Lavazan, là, c'est un village, mais je dirais entre Toulouse et Bordeaux. Ma grand-mère cuisinait, c'était extraordinaire. Là, puis j'ai de la misère à l'expliquer, mais c'était toujours dans la simplicité. Mais mes grands-parents avaient leur jardin avec tous les légumes qu'on peut imaginer. Moi, j'ai des souvenirs d'aller tirer les carottes dans terre avec mon grand-père, tout ça. Fait que j'ai quand même été exposé à ça, puis les petits marchés, parce que plus jeune, je suis pas... En fait, j'allais à l'école au Québec, mais mes étés, je les passais chez mes grands-parents en France. Donc, tout ce qui était l'aspect loisir, puis je détestais l'école. Donc, tout ce qui était loisir et plaisant était associé justement... puis on est loin de l'image de la France qu'on va avoir, région parisienne et tout ça, le très campagnard, paysan... sud-ouest, convivial, c'est souvent quand j'entends, parce que je pense que c'est le dernier racisme qui est encore toléré contre les Français. Là, au Québec, on dirait que tout le monde se le permet, puis on peut pas dire autre chose, mais j'étais pas exposé aux Parisiens. C'est une autre culture, c'est plus basque, on est très proche de la frontière espagnole. Il n'y avait pas d'eau. On tirait l'eau d'un puits, là, carrément. Là, c'était... Ma grand-mère arrivait à aller chercher des goûts francs. Puis, tu sais, j'ai jamais retrouvé ça. Puis, j'ai jamais été capable de le retrouver nulle part. Puis là, peut-être que c'est un peu... c'est peut-être un peu romancé dans mon esprit parce que ça vient aussi avec des souvenirs de bonheur d'enfance. Mais je pense que ça a commencé là. Après... Je cuisinais chez moi, puis j'avais du plaisir à le faire. Après, je me suis mis à m'acheter tous les équipements de cuisine funky, puis à cuisiner pour mes amis. Puis j'étais toujours fâché contre eux, puis on se chicanait parce que je passais 3 heures, 4 heures à cuisiner quelque chose, puis ça mangeait, à 20 ans, ça mangeait comme des sauvages.
Ça part en 15 minutes, même pas.
Ouais. Mm. Puis, tu sais, sans nécessairement d'appréciation du travail qu'il y avait derrière. Puis je pense que ça vient de là, puis moi, j'ai toujours établi que j'allais ouvrir un resto. J'ai fait de l'immobilier pendant 11 ans. T'sais. J'étais agent d'immeuble Remax le jour de mes 18 ans. Ça a bien été vraiment d'un point de vue pécunier, mais il n'y a pas eu une seconde dans laquelle j'ai fait ça. Puis je me suis senti à ma place où j'étais heureux. Puis à mes 30 ans, je réalisais que même si tout roulait très bien, puis que j'avais comme 15 heures à mettre de travail par semaine, puis que ça me rapportait beaucoup. Ces 15 heures-là avaient l'air de 150 heures, une montagne, puis j'étais déprimé. Là. Je pense que j'ai fait un burn-out, dépression. Puis je me suis mis à chercher des locaux, puis une gang d'amis un peu fous qui avaient le goût de parier sur ce projet-là. Ben, puis 3 ans plus tard, on est assis dans le resto, puis il fonctionne encore, puis on en ouvre 2 d'ici juin qui s'en vient. Fait.
Je peux dire aussi, pour être assis ici avec toi, que moi, personnellement, c'est la première fois que je suis ici au restaurant Chasse-Galerie. Puis l'ambiance est vraiment... C'est sûr qu'on est tout seul, fait que c'est très intimiste, si on peut le dire. Là.
Ouais, c'est un peu weird, tu me fais peur.
mais c'est très, très chaleureux, ces genres de l'endroit où, clairement, là, on se sentirait bien, bien à l'aise de manger, ne serait-ce que juste l'ambiance de la place. T'sais, ça a l'air vraiment casual. Ça a l'air de... gastronomique, c'est très, très beau, mais en même temps, ça a l'air de genre d'endroit où on sent qu'on va être bien traité, disons-le de même.
Ah, ben on voulait vraiment casser le... Tu sais, on voulait être funky et travailler au niveau de l'assiette. Toutes nos assiettes sont faites à la main par Catherine Auriol chez Gaïa, tout ça. Mais on voulait casser le concept de la nappe blanche puis du service impersonnel puis tout ça. J'avais le goût que ça soit une ambiance de cabane à sucre, finalement. Mais dans laquelle on se fait servir de la cuisine esthétique et très travaillée avec des produits d'ici. C'était ça l'idée. Puis à date, je te dirais que ça a pris 2 ans pour que ça ressemble à l'idée que j'avais en tête. Fait des changements, mais on est bien contents.
C'est un très beau travail, en tout cas, de ce que je peux voir ici. Puis aussi par le succès qu'on peut voir, là, ne serait-ce que dans l'industrie en général, là, la Chasse-Galerie, c'est fait partie des restaurants forts de Montréal. Fait que un gros félicitation pour ça. Surtout que c'est un rêve qui est devenu réalité pour toi. Tu mérites amplement toutes ces félicitations-là.
Merci infiniment.
Donc, on fait une petite pause de temps de remplir nos verres et puis on revient tout de suite après.
Parfait.
Abonnez-vous au podcast via votre plateforme préférée iTunes, Spotify et Google Play pour recevoir automatiquement le tout dernier épisode de La Table d'Hôte. Et pour tout savoir sur les sujets et les invités de la semaine prochaine, visitez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter en cherchant le @commercial Table d'Hôte QC en un mot et sans accent. On attend vos commentaires et suggestions. Vous pouvez également nous encourager en nous donnant 5 étoiles sur iTunes ainsi que vos commentaires sur l'émission.
Donc, de retour à cette deuxième partie du podcast La Table d'Hôte, toujours en compagnie de notre invité Vianney Godbout. Alors, rebonjour.
Rebonjour.
On en parlait tout à l'heure pendant la petite pause qu'on a eue, justement, de la petite histoire. Il y a une histoire intéressante par rapport au fait que vous êtes installé ici, à la Chasse-Galerie, sur la rue Saint-Denis, rue qui a pourtant de la difficulté à survivre en ce moment, ne serait-ce que par les réparations qu'il y a eues là, au fil des années, puis même au fait que, bon, ben justement, la rue Saint-Denis souffre un petit peu de tout ça, et puis de l'air du temps aussi. Donc, pourquoi s'installer ici, sur la rue Saint-Denis?
Oui, bien en fait, il y a vraiment deux histoires. Il y a celle que je compte à un client pour que ça soit cute, puis la version romancée, mes parents avaient une bibliothèque, je suis né sur la rue Saint-Denis, une librairie, pas une bibliothèque, lapsus. Mais en fait, c'est complètement faux. On devait s'installer, en fait, dans la petite Italie. Puis même si j'avais une entente très claire sur une poignée de main avec le bailleur, le jour où on devait signer, il y avait une contre-offre plus élevée. Puis il m'avait fait faux bon. Ben, le commerce qui avait pris notre place a fermé, d'ailleurs. Donc, ça, c'est la fin de l'histoire, le karma.
Le karma, hein? C'est ça.
Oui, ouais. Le karma. Mais moi, j'avais débauché une équipe complète de service et de cuisine, donc ça me mettait dans une situation excessivement inconfortable parce que, je veux dire, je me devais d'avancer puis de trouver. Puis là, quand je suis sorti de cette rencontre-là, j'étais complètement dépité. Je me suis mis en mode recherche intensif. Puis, à ma grande surprise, puis à la grande surprise de tous, il y avait beaucoup de locaux disponibles sur Saint-Denis.
Tiens donc!
Tiens donc! Puis, quand j'ai vu les photos ici... Mais sans blague, par exemple, j'ai adoré le format du local, la cuisine ouverte. J'ai facilement figuré ce qu'on pourrait faire ici parce que je suis pas le plus grand designer au monde, donc on dirait qu'il faut que je le voie facilement. Puis on a avancé, puis on s'est dit, devenons une destination, puis on sera pas esclave du trafic de notre rue. Puis ce qu'on fait, puis je veux dire maintenant, Saint-Denis en tant que tel, je pense que les dommages ont été faits par le passé, mais en tant que tel, il y a du stationnement. C'est une belle grande rue. Il n'y a aucune raison que Saint-Denis soit pas plaisant en ce moment, mais je pense qu'il y a des énormes dommages qui ont été faits par le passé, malheureusement, puis que les commerces en subissent encore les contre-coups et tout ça.
Mais toi, en tant que restaurateur, est-ce que tu en subis présentement les contre-coups? Est-ce que, en tant que restaurateur, toi, ça te nuit d'une certaine façon d'être sur Saint-Denis?
Bien, j'ouvrirais clairement pas un Subway sur Saint-Denis. Je veux dire, je pense qu'il faut être une destination pour que les gens s'y rendent, parce que c'est une rue qui a été oubliée. Je peux pas me fier sur les gens qui marchent dans la rue ou quoi que ce soit. Donc, si je servais tartare de bœuf, tartare de saumon, puis trois sortes de sandwich, je pense que je survivrais pas. Mais là, veux pas, on fait quelque chose qu'on peut pas avoir ailleurs, comme plein d'autres restaurants. On est une destination qui travaille des trucs de façon différente. Donc, je pense que ça ne nous affecte pas particulièrement. Je dirais pas que c'est un avantage d'être sur Saint-Denis. Clairement pas. Mais on y est très bien et on s'en sort très bien.
Dans le fond, la promotion se fait à un autre niveau que sur la rue.
Oui, totalement. C'est sûr que même dans notre... quand on travaille les réseaux sociaux, tout ça, là, on n'est pas... On vise pas uniquement le plateau ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, les concierges d'hôtels, les clés d'or, tout ça, on a une super belle relation avec eux. Dans les grosses périodes touristiques, on a énormément de touristes. Puis, tu sais, on est vraiment content de les accueillir. Puis, je pense qu'ils adorent leur expérience, puis tout ça. On est classé assez haut sur TripAdvisor. Ça nous aide énormément en période estivale.
Y a-t-il beaucoup de clients étrangers qui viennent ici?
Énormément. En fait, beaucoup plus que j'aurais pensé. Présentement, on dirait que justement, je cherche plus à travailler la clientèle locale et tout ça. Parce que pour ce qui est du boulot qu'il y avait à faire au niveau de la clientèle étrangère, elle a été faite, puis on performe à ce niveau-là. Puis on a des très bons retours, là, puis on se fait référer beaucoup. C'est le fun. Je suis super content de ce point-là. Là, j'aimerais qu'on touche un peu les gens du quartier puis tout ça.
Donc, en question de la chasse-galerie, dans le fond.
Oui.
Parce que, dans le fond, je t'apprends rien en disant quand même que la ville de Montréal est l'endroit par capita où il y a le plus grand nombre, en fait, de restaurants. C'est pas facile, l'industrie de la restauration à Montréal, pour plusieurs raisons. Il y a des enjeux, bien évidemment, d'offres. Il y a aussi des enjeux aussi où ils ont de la misère à trouver du personnel aussi pour entrer. Tu as dans tes plans d'ouvrir deux autres restaurants déjà en plus de la chasse-galerie. Pour toi, comment ça va, les affaires?
Je pense qu'il n'y a rien de facile dans la vie. Nous, ça, on va tout de suite établir que si on veut être dans le 90e percentile de performance, ça va toujours être dur, peu importe ce qu'on fait. En contrepartie, je pense... C'est un domaine où, la main-d'œuvre, moi, je touche du bois, je suis très chanceux. On a des gens qualifiés, il y a beaucoup de gens qui veulent venir travailler avec nous, puis ça, je me sens complètement choyé parce que je vis pas particulièrement ce problème-là. Après, je pense que ce qui est un peu dommage, c'est comme nous, ici, on a acheté un fonds de commerce pour ouvrir le chasse-galerie. Je pense que malheureusement, notre permis de restaurant ou notre permis d'occupation ou un permis d'alcool, ici, c'est pas notre fonds de retraite. On peut rien faire avec. Ça vaut absolument rien. C'est assez simple d'aller chercher un local, un ancien dépanneur, quoi que ce soit, puis d'ouvrir un restaurant là-dedans et tout ça. Je pense qu'il faudrait réglementer un peu ça. Puis je veux pas empêcher les gens, puis j'aurais trouvé ça plate, moi, qu'on m'empêche d'ouvrir quand c'était mon rêve. Sauf que j'étais prêt, puis je l'ai fait de toute façon, à acheter un fonds de commerce d'un commerce établi, puis tout ça, puis blablabla. Puis malheureusement, bien, tant mieux pour moi à l'époque, mais les fonds de commerce de resto ne valent rien. Puis ça, c'est un peu triste, mais moi, je suis super à l'aise d'ouvrir d'autres établissements. Bien, je pense qu'il faut comprendre un peu la façon de les gérer. Il faut s'adapter à l'ère dans laquelle on est. Puis il faut comprendre la clientèle dans quel coin on ouvre. Puis je pense qu'il y a beaucoup de restaurants qui ouvrent. Puis je peux facilement comprendre pourquoi ça marche pas quand je mets les pieds à quelque part. Puis des fois, je comprends pas pourquoi ça marche. Puis des fois, je comprends pourquoi ça marche. Mais bon, faut se différencier. Faut offrir quelque chose de différent à notre client. Faut vendre une expérience et non uniquement de la nourriture. Puis moi franchement, ça va bien.
La chasse-galerie met aussi beaucoup de l'avant les produits locaux. C'est important pour toi, d'ailleurs, de mettre en avant les produits locaux, autant au niveau des aliments, mais même au niveau des assiettes. Ici, je crois que tu utilises les assiettes, en fait, les assiettes de chez Gaïa.
Oui.
Qui est une entreprise québécoise. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu?
Oui, bien, Catherine Auriol, en fait, moi, j'avais été manger chez Mousseau. Puis, tu sais, straight up, j'avais dit à Antonin, tu sais, on avait connecté, c'est un ami. J'ai dit, hey, tes assiettes viennent d'où, pourquoi, comment? Puis il m'a fait compte. J'avais le projet d'ouvrir. De façon très généreuse, il m'a mis en contact avec Catherine chez Gaïa, Catherine Auriol. Puis on a fait notre premier set de vaisselle, puis le deuxième. Puis là, j'ai vu que les gens aimaient ça. Puis ça devenait ça faisait des assiettes Pinterest et Instagrammables. Fait que, veux pas, on a continué dans cette lignée-là. Ben, comme là, j'ouvre Cœur de loup, on va faire un autre concept. Mais je veux dire, j'aime beaucoup ce qu'il a fait, puis on est très content de l'avoir fait. Puis oui, je trouve ça intéressant. Puis tu sais, c'est justement, je pense que les grosses machines, on s'est parlé hors cam, tu sais, de l'atelier, tout ça. Je pense qu'il aurait pu faire taire beaucoup de rétracteurs, tout ça, si on avait travaillé avec des artisans. D'ici, au lieu de prendre la vaisselle Bernardo à 800 euros pour 4 assiettes et tout ça, je pense que ça... Mais tu vois, je te dis ça, puis de l'autre côté, je me dis que c'est de la vaisselle Bernardo dans tous les ateliers dans le monde.
Ben ça, puis l'atelier, donc, c'est un restaurant, tu sais, je veux dire, ouais. Gilles Robuchon, c'est un Français.
Ben c'est un... Ouais, non, mais ben, au fur et à mesure que je parlais, j'étais de moins en moins d'accord avec mon argument. Mais bon, je pense que à première vue, c'est peut-être des détails comme ça qui ont choqué les gens. Là, on s'éloigne, on tombe sur le dossier de l'atelier, mais ça reste qu'on est très chanceux d'en avoir un en ville, puis c'est un flagship. Puis
Mais ça amène un certain prestige, entre autres, à la ville de Montréal, d'avoir un des plus grands étoilés Michelin, dans le fond, au monde.
Le chef le plus étoilé.
Mais tu sais, c'est une chose. Mais en même temps, je pense pas que les Montréalais puis les Québécois sont prêts à délaisser leur culture locale aussi. Un restaurant comme la Chasse-Galerie, là, c'est super. Je veux dire, ne serait-ce que juste par le titre de nom, la Chasse-Galerie, ça fait partie du folklore québécois. On s'attend à un certain style, tu sais, quand on vient manger à la Chasse-Galerie, tu sais, on s'attend à une certaine ambiance, tu sais, qui, selon moi, est quand même bien représentée ici, là, tu sais.
Oui, puis, c'est sûr qu'on met de l'avant les produits d'ici. Je pourrais pas dire qu'on est locavore à 100%, là, parce qu'en hiver, il arrive un moment où, franchement, c'est cool d'avoir un peu de soleil dans une dégustation. Tu sais, en ce moment... Tout le monde hâte au soleil. On a un dessert qui est autour de l'ananas, du coco, puis tout ça. Puis c'est assumé. Là. Ça vient pas d'ici. Il en pousse pas ici. Sauf que moi, je suis pas contre travailler avec des ingrédients d'ailleurs. Après, j'aime... Si je travaille avec des ingrédients d'ailleurs, j'aime ramener des concepts québécois.
On va travailler l'aliment qui vient peut-être d'ailleurs, mais en l'intégrant.
On va travailler l'aliment d'ailleurs dans une recette traditionnelle d'ici qu'on va travailler de façon plus esthétique, plus gastro. Puis c'est sûr qu'on va jamais renier les techniques françaises de cuisine ou tout ça, parce que veux pas, on est une jeune nation, donc il y a des choses qui viennent des plus vieilles nations, puis ça sera toujours comme ça. La pizza, c'est italien, on n'essaiera pas d'inventer que nous, on fait de la pizza de façon québécoise. Là, ben, sauf si on ajoute un peu de bacon dessus.
Exact.
Là, mais...
Tout ça culmine, dans le fond, à... Enfin, un sujet super intéressant que j'avais très, très hâte d'aborder avec toi, ton Chef Battle, qui est un événement qui va se dérouler ici au restaurant La Chasse-Galerie tous les lundis à partir du mois d'avril jusqu'au 20 mai. C'est la première édition cette année de ce concours-là, si tu veux. Peux-tu m'expliquer d'où l'idée t'est venue un petit peu de créer ça?
Oui, en fait, le Chef Battle, bon, on se resserre, on fait un peu de bronze.
Ah ben oui, giggling, mais écoute, le vin est tellement bon. Et tellement
ben,
frais, surtout.
Bon, ben ça va. Mais il est quand même 10 heures du matin, hein?
Ah, ben c'est... Écoute, il est 5 heures quelque part dans le monde.
Oui. Ben, j'étais avec Alex, le chef aux chasses, puis en fait, on n'a rien inventé. Là, on disait qu'à couteau tiré, c'était cool comme concept d'émission, puis que c'était plate, que ça n'existe plus. Puis, en fait, c'est comme dit, hey, on devrait faire ça. Puis, c'est vraiment parti d'une idée basée sur... pas grand-chose. Puis on venait d'avoir notre pop-up avec Mike Begarly pour Montréal en lumière, qui a été chef exécutif d'Alinéa pendant 7 ans. Fait qu'on avait Alinéa en tête. On savait qu'on avait peut-être des entrées un peu privilégiées. Et puis, on a dit, je pense que ça donnera envie aux chefs. On faisait gagner un genre de 4 jours... conclu par un tasting chez Alinéa à Chicago. Puis là, j'ai fait faire un visuel par mon infographe, Chef Wanted. Puis là, je me suis dit, je pense qu'il va falloir que je sollicite des gens. Tout le monde va un peu s'en foutre. Puis là, je me suis mis à recevoir des candidatures que je ne m'attendais jamais à recevoir. Puis les gens étaient super intéressés. Puis franchement, maintenant, quand j'y pense, c'est vrai qu'il y a comme 3 compétitions par semaine, j'exagère, là, mais de mixologues et tout ça, ça finit plus. Mais il était temps pour moi qu'il y ait des réunions entre cuisiniers. Puis, tu sais, la beauté de la chose, d'avoir un tableau qui est aussi... Moi, je trouve qu'on a il y a du gros calibre dans la compétition. C'est qu'il n'y a aucun match-up où je sens que si quelqu'un perd son duel, il perd la face en même temps, parce que avec les noms qu'on a...
C'est amical.
Ben, amical ou non, ce que je veux dire, c'est que personne ne va perdre contre Gontran de Pointe-aux-Trembles. Mm-hmm. Je veux dire, on a un gros calibre. Donc, veux pas, je pense que ça va juste donner des super lundis, des beaux événements ultra festifs, puis ça va favoriser l'échange. Et tout le monde revient au mot amical, mais... Moi, je pense qu'il y a quand même des comptes qui vont se régler dans tout ça. Puis franchement, je vois que tout le monde est très compétitif. Là. Tout le monde a beau dire « Ah oui, moi, je viens pour m'amuser », mais moi, je communique avec eux, puis je reçois les questions, puis tout mm-hmm. ça. Puis nous, on est resté ultra secret par rapport à toutes les boîtes. J'ai offert à tout le monde de venir visiter la cuisine à l'avance. Ils sont jamais venus ici.
C'est quoi leur vrai défi? Dans le fond, quand les deux cuisiniers vont arriver, qu'est-ce que tu leur prépares? Est-ce que, dans le fond, ils arrivent
ben
ici?
Moi, je ne le sais même pas. Parce que, étant donné qu'il y en a beaucoup que je connais de façon personnelle, on voulait que ça soit vraiment pas biaisé du tout. Puis je voulais pas m'exposer à me faire demander qu'est-ce qu'il va y avoir dans boîte mystère. Donc, okay. Je vais réellement le découvrir en même temps qu'eux.
Fait que dans le fond, c'est que tu crées carrément des boîtes.
Bien, c'est pas moi qui ai créé. C'est, okay. c'est Alex, notre chef.
Fait que c'est quoi leur défi?
J'anime la soirée. Eux, ils arrivent ici. À 6 heures, on ouvre la boîte, ils découvrent les ingrédients. Ils ont 15 minutes pour monter un plan de travail. On a deux juges invités. On a des super juges sur le panneau, ça va être cool. Puis après, ils ont 1h45 pour cuisiner deux plats pour les deux juges. Et ils doivent choisir un des deux plats qu'ils vont présenter en 50 bouchées pour le public à l'extérieur du 1h45. Donc là, mon équipe de cuisine va venir les aider à monter les bouchées. Ils ne peuvent pas les réassaisonner, ils ne peuvent pas les retoucher ou rien. Ils peuvent réchauffer, that's it. Quand on monte les bouchées, le public va voter. Le vote du public vaut un point. Et le vote de chacun de nos juges vaut un point. Donc, moi, c'est sûr, j'ai un commerce à faire fonctionner. Je voulais inciter les chefs à inviter leur crowd, si on veut. Mais je ne voulais pas que ça devienne aussi un concours de popularité. Donc, même si quelqu'un avait 100% des gens de la salle, mm-hmm. puis que c'était pas impartial, là. Je veux dire, il y a un point, mais s'il se fait défoncer par l'autre, puis que les deux juges donnent le point à l'autre, ça va quand même. Moi, je cherchais vraiment la façon que ce soit le plus équitable possible. Puis on vend les billets 45$ pour assister sur notre site web au www.lechassegalerie.com. Ça, c'était justement, je voulais pas me faire réserver par des chefs, garde-moi 20 billets, puis mm-hmm. finalement 11 personnes. Donc, on les a mis en vente prepaid, on a une guest list à l'entrée. Ça vient avec deux cocktails et puis il y a des bouchées tout le long de la soirée. Fait que je pense que personne ne va sortir en ayant faim d'ici. Puis ça va être un concept debout, festif, bruyant.
Est-ce que les gens vont pouvoir regarder justement puis encourager les chefs?
La cuisine est ouverte. Hein? Fait que c'est... Puis je veux que ça soit... c'est comme j'ai dit, ça va être très festif. Donc, nous, on a le garde-manger à l'arrière. T'sais, faut que ça court... Je mets quelqu'un, justement, un employé d'ici attitré au garde-manger pour que les gens ne cherchent pas leurs trucs. Ils demandent les trucs, on leur donne le plus vite possible. Donc, franchement, je pense que ça va être un super bel événement. J'ai vraiment hâte. Puis je suis vraiment étonné de la liste de compétiteurs qu'on a. Là. Pour moi, c'est exceptionnel.
Ben parlons-en justement de la liste, puis c'est bizarre, on va revenir un peu au sujet de la première partie. On parle des jeunes stars de la restauration qui vont s'affronter, on parle de Mathieu Bourdage qui vient du Kitchen Gallery, il y a Mathieu Duceppe aussi du Jellyfish, il y a Hakim Chajar de chez Miel, et puis ben Maxime Morin du Chien Fumant, entre autres. Est-ce que la nouvelle génération de chefs est particulièrement friande de cette... de ce type de compétition-là?
Je pense que Même les vieux de la vieille, il ne faut pas les oublier. Là. Moi, j'ai des Marc-André Jeté de chez Hogan et Beaufort, Danny Saint-Pierre.
Ah oui, Danny Saint-Pierre aussi. Ouais.
Tu sais, Francis Wolff, c'est tout un compétiteur. Je pense que tout le monde attendait un événement comme ça avec un enjeu intéressant. C'est pas juste les jeunes. Max va affronter Ara, qui est son ancien sous-chef. Ça va être extraordinaire comme moment. Oui, tout est amical, mais je pense que tout le monde veut performer quand même. Puis je pense que, veut pas, quand on est passionné par quelque chose, on a le goût de se mesurer. Puis en fait, sur une boîte surprise, je pense pas, c'est pas nécessairement, on peut pas dire que c'est le meilleur qui a gagné. Parce que, veut pas, il y a des ingrédients qui vont avantager plus un chef que l'autre. Nous, je sais qu'on va tenter là, au maximum de pas avantager personne, autant au niveau des juges invités que les ingrédients, que tout ça. Après, on ne connaît pas tout sur la vie de tout le monde. Ensuite, il y a des gens qui performent mieux sur des paniers surprises avec peu de temps de réflexion. Il y a des gens qui sont plus cérébraux, qui ont besoin de penser à un menu pendant une semaine. Mais... En vrai, je pense que ça va être extraordinaire comme compétition. J'ai vraiment très hâte.
Ah ben ça, c'est sûr que ça va être extraordinaire. Mais justement, si on revient justement au fait de... Ben, en fait, il y a beaucoup d'anciens concurrents des chefs. T'sais, entre autres, on parle de Mathieu Bourdage, Hakim Chajar, Ashley Turton, Constance Gagnon, Fabricia Rollo aussi. Est-ce qu'on peut dire aussi que ces jeunes-là, justement, grâce un peu aux chefs, ça a un petit peu... ça a un effet positif sur leur propre carrière, à ton avis?
Moi, à mon avis, ce qui a été positif pour leur carrière, c'est vraiment le fait qu'ils soient passionnés par la cuisine. Puis c'est des gens, si je me trompe pas, qui ont probablement tous fait l'ITHQ, qui baignent là-dedans énormément. Donc, je trouve que ça serait... Tu sais, les chefs, c'est un passage naturel. C'était justement un peu comme notre compétition. C'était une opportunité d'aller se prouver, puis ils l'ont pris. Puis enfin, il y avait une émission qui mettait en valeur le talent culinaire puis la jeunesse au Québec. Mais je pense, je trouve que ça serait un peu plate pour eux de dire que c'est les chefs qui leur ont permis de se mettre en valeur. Moi, je pense que c'est leur travail, puis c'est vraiment le fait qu'ils étaient totalement passionnés.
Mais ceux-ci sont rendus même là, et même s'ils ont avancé dans ces compétitions-là, de base, c'est que, même à la base, quand ils étaient dans le groupe de départ, c'était des passionnés qui, justement, aimaient ce qu'ils faisaient, puis ils étaient déjà dans les meilleurs de leur cohorte, si on veut, pour se rendre, ne serait-ce qu'à l'ouverture, si on veut, de l'émission.
Ah, je suis pas tellement d'accord avec cette affirmation-là.
Ah, de dire que les premiers seraient pas... en fait, tu sais, mettons qu'il y en a 20 au départ, là, dans la compétition, c'est quand même les 20 meilleurs de ceux qui ont quand même compétitionné là-dedans, là, qui ont postulé pour faire partie de ça.
Ouais, mais non, c'est pas de même que ça se passe, le processus. Je pense vraiment que la sélection était faite... beaucoup en fonction du restaurant dans lequel ils travaillaient, puis tout ça, puis c'est des gens qui étaient prêts à le faire, qui avaient le goût de se tester, puis tout ça. Les meilleurs, c'est que je trouve que c'est un milieu où c'est dur d'établir qui est meilleur qu'un autre. T'sais, on est aussi bon que le dernier service qu'on a livré. Non?
En quoi est-ce que des concours comme Chef Battle que tu mets en place contribuent à la diversification, si on veut, et dans le fond, au renouvellement de la clientèle des restaurants de la métropole?
Chef Battle, l'idée était absolument pas de diversifier notre clientèle ou quoi que ce soit. C'était de réunir des gens. Puis on s'est un peu fait plaisir à nous-mêmes, moi et Alex, notre chef, parce qu'on avait le goût de voir ces gens-là s'affronter. Puis, si ça s'était passé dans un autre resto, on serait client, puis on aurait été. Fait que ça se passait pas ailleurs, on a décidé de le faire chez nous. Mais au final, c'est un line-up qu'on a envie de voir cuisiner un contre l'autre dans les barèmes qu'on va donner. Puis, moi, je pense que c'est carrément, là, on s'est fait plaisir à nous-mêmes, puis ça va réunir les gens. Ça va faire une clientèle de l'industrie les lundis. On a fixé un prix qui est excessivement honnête, pas trop cher pour que ça soit accessible à tous.
Mais est-ce que ce type d'événement-là donne pas un boost un peu à l'ensemble, si on veut, des restaurateurs montréalais en créant des mini-événements, si on veut, entre parenthèses, mais qui donnent un peu une vie, si on veut, à l'ensemble?
Bien, il faut faire vivre la ville. Je veux dire, nos hivers sont longs et gris. Fait que tous ces trucs-là sont super importants. Je pense qu'il n'y a rien qui est magique, mais il n'y a rien qui est mauvais non plus. Puis, veux pas maintenant, là, je veux dire, nos compétiteurs, c'est plus vraiment le restaurant d'à côté ou quoi que ce soit. On se bat contre les Uber Eats de ce monde. On se bat pas mal contre tout le monde, contre les boîtes prêtes à manger. Fait que, en tant que restaurateur, je pense qu'il faut qu'on forme une alliance, puis qu'on se tienne, puis qu'on fasse vivre la ville, puis que ça soit... T'sais, que ça soit vivant, que ça soit vibrant, que ça soit... on est rendu là. Puis franchement, je pense qu'un truc comme Chef Battle, les festivals comme Montréal en lumière, Montréal à table aussi, en fait, c'est superbe. Là, puis il faut que ça continue à Montréal.
Est-ce qu'il y a une bonne réponse des Montréalais par rapport à tous ces événements-là, dans le fond, qui sont créés dans le monde de la gastronomie à Montréal?
Réellement, en fait, Montréal à table marche vraiment très fort. Puis, tu sais, c'est pas tous les restaurateurs qui ont envie de le faire nécessairement. Parce que c'est sûr que nous, tu sais, versus nos 7 services habituels sur 4 heures de temps, c'est sûr que d'avoir un petit prix pour un 3 services puis de faire flipper la salle 3 fois, on change un peu l'identité du resto pendant le festival, mais veut pas. Ça permet aux gens de traverser la porte ici. On espère qu'ils comprennent que c'est pas exactement l'expérience qu'ils auraient eu en temps normal, mais ils l'ont à un petit prix. Ça leur permet de visiter l'endroit et de goûter un peu à ce qu'on fait. Après, je comprends qu'il y ait des restaurateurs qui n'aiment pas le faire parce que, oui, tu sais, on a clairement eu des gens qui étaient frustrés d'avoir quitté leur table après 2 heures pour un 3 services, tout ça. Mais je pense qu'il faut responsabiliser le client à ce qu'il comprenne que s'il y a un deal puis qu'il paye pas cher, nous, pour survivre, faut qu'on mette d'autres clients à sa place. S'il y a réservé à 6 heures, à 8 heures, j'ai 2 autres clients qui s'assoient à sa place.
Pour rentabiliser la table.
Ben, on n'a pas le choix. J'aimerais ne pas avoir à le faire. Je veux dire, demain, je gagne l'automax, il n'y a pas de problème. Pour 43 $, reste assis là une semaine. Mais malheureusement, on a besoin d'être rentable. Pour l'instant, c'est une réalité. Puis ça c'est un truc que j'aimerais peut-être que... Je pense que les gens sont pas tous responsabilisés par rapport à ça. Puis je trouve ça un peu étonnant parce que nous, on prend vraiment la peine d'avertir les gens s'il y a une heure de départ pour la table. Puis je vis le malaise beaucoup trop souvent. Puis les gens outrés, puis tout ça. Mais je veux dire, je comprends si vous n'êtes pas avisé, vouloir garder votre table, on vous demande de la quitter, c'est excessivement choquant, mais à quelque part, quand on prend une entente avec un restaurateur, faut la respecter.
Mm-hmm. En terminant, écoute, le temps file, mais écoute, je voudrais pas abuser de ton temps. Je sais que t'es un homme quand même très, très occupé, d'ailleurs. T'es très occupé parce que, ben, t'as 2 nouveaux restaurants qui s'en viennent, là. Parle-nous-en donc un petit peu.
Oui, ben, on est en train d'ouvrir Cœur de loup au coin de Bélanger de la Roche. En gros, on veut faire un concept un peu de bouchon québécois, bistrot québécois. Ça va être très festif. Vous allez pouvoir manger un Queen Amand chômeur, une blanquette chinoise... C'est des plats qui portent au corps ludiques, parfaits pour venir manger en groupe, avoir du plaisir. C'est un peu la réponse à mes amis qui voudraient venir me voir plus régulièrement aux chasses, mais qui n'ont pas nécessairement le goût de se claquer un set service. le Cœur de loup, ça va être le type d'endroit où on peut venir 4 fois semaine puis trouver son compte. Et puis, on embarque... d'un projet qui s'appelle Le Central. C'est Société de développement des Shoppingus qui fait ça avec la tribu. C'est vraiment intéressant. Ça va être le premier food hall au coin de Saint-Laurent et Sainte-Catherine à Montréal. Et puis, il y a une belle lignée de restaurateurs qui sont là. Il n'y a aucune franchise, quoi que ce soit. C'est axé presque sur du monoproduit. Donc, nous, on ouvre Mignonette là-bas. Ça va être un stand à cru. On va avoir toujours un tartare végé, un tartare de poisson, un tartare de viande, sinon huître, couteau de mer. Très simple, toujours très frais. Du vin au verre dans le quartier des spectacles. Puis, si ça vous plaît pas autour de nous, il y a les gens du Red Tiger, tout ça. Il y a vraiment plein de gens extraordinaires. Il va y avoir, je pense, 26 kiosques. Mais cherchez pas un AEW ou quoi que ce soit. Là, ça va être tous des passionnés. Tous des passionnés qui font un beau produit frais, bien travaillé.
En terminant, qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'avenir?
Ben, on va tous se souhaiter la même chose. Hein? Le plus de succès possible, le plus de santé possible, puis du bonheur.
Absolument. Mais bonheur et manger, ça va tellement bien ensemble, n'est-ce pas?
Oui, sauf sur la balance le lendemain.
Écoute, je peux en témoigner. Écoute, Vianney Godbout, propriétaire du restaurant Le Chasse-Galerie à Montréal, merci beaucoup de t'être prêté au jeu, de t'être assis avec moi pendant autant de temps, d'avoir pris...
C'était un grand plaisir.
D'avoir pris le temps précieux que t'as pour partager avec nous ta passion de la cuisine et puis remémorer quelques souvenirs du passé. On rappelle que ton événement Chef Battle a lieu tous les lundis d'avril et de mai, ici même au restaurant La Chasse-Galerie. Il reste évidemment de la place.
Bon, en date d'aujourd'hui, oui, il reste de la place, mais ça part quand même vite. On est un peu étonné du succès que ça a.
Donc, il reste quelques places. On vous invite à consulter le site web de la Chasse-Galerie qui est le...
www.lechassegalerie.com. Le au masculin.
Le. Parfait. Quant à nous, merci d'avoir écouté cet épisode de La Table d'Hôte. Hein. N'oubliez certainement pas d'aller liker notre page Facebook et de propager la bonne nouvelle. Bon appétit et à très bientôt!